Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre santé, un trésor. C'est une émission de Votre santé, un trésor un peu particulière que je vous propose aujourd'hui où je serai le seul intervenant. Et oui, une fois n'est pas coutume. En effet, j'avais envie de vous parler d'un de mes personnages de roman favoris, le commissaire divisionnaire Jules Maigret, et de son créateur, M. Georges Simenon. Auteur né le 13 février 1903 à Liège, en Belgique, et mort le 4 septembre 1989 à Lausanne, en Suisse. Simenon était un romancier et écrivain extraordinaire et extrêmement prolifique. Il a écrit par exemple les dossiers de l'agence O, un recueil de nouvelles paru en 1943, l'escalier de fer, un roman policier paru en 1953, l'enterrement de Monsieur Bouvet, un autre roman policier publié en 1950 aux presses de la Cité, le fantôme du chevelier, un roman policier paru en 1949. Simenon n'est pas que Maigret. En 1931, il crée sous son propre nom, Georges Simenon, le personnage du commissaire Maigret devenu mondialement connu et qui prend une place importante dans la mythologie du roman policier. Simenon enregistre sur magnétophone après avoir décidé de ne plus écrire à la fin de sa vie. En 1972, Simenon a 69 ans, il renonce au roman mais continue à écrire sur lui-même, ce qu'il a fait en fait toute sa vie, à travers ses personnages comme avec Maigret. Un recueil de 21 dictées autobiographiques de Georges Simenon. Elles sont à lire et sont décrites comme une autobiographie sentimentale. Le Petit Docteur est un recueil de 13 nouvelles de Georges Simenon paru en 1943. Elles ont pour héros le docteur Jean Dolène, médecin de campagne à Marcilly, en Charente-Maritime. Et c'est ici que Georges Simenon et Jules Maigret prennent leur place et leur importance dans mon émission sur la santé, que je vous remercie de suivre et d'écouter. Je suis moi-même un auteur de romans policiers avec Nathalie Rivière, ma co-autrice. Nous avons créé un personnage, le docteur Philippe Langevin. Il s'agit d'un médecin qui s'installe à la fin du 19e siècle à Nîmes, rue Richelieu, et qui va mener des enquêtes policières à Nîmes et sa région, mais toujours sur la base d'un sujet irrationnel et mystérieux, comme par exemple les combustions humaines spontanées. Dire que Simenon ne nous a pas influencés serait mentir. Nous l'avons tous les deux beaucoup lu. Mais au contexte que j'appelle les enquêtes policières à la manière d'un diagnostic médical, nous avons ajouté de l'étrange comme la lycanthropie ou le secret des Templiers. Écoutez et retrouvez les ambiances de Maigret par Jean Richard et Bruno Kremer à la télévision. Simenon fait réaliser à Maigret des enquêtes policières à la manière d'un diagnostic médical, car Georges Simenon, comme son personnage Jules Maigret, sont des médecins empêchés. Tous deux voulaient pratiquer la médecine, mais ne l'ont pas pu. Georges Simenon n'est pas le seul à employer ce modèle d'enquête policière. Il existe des héros de romans policiers historiques comme le frère Cadfael d'Eli Peters dans l'Angleterre du XIIe siècle. Des héros hors de la loi comme Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc. Des enquêteurs policiers comme l'inspecteur John Rebus, créé par Ian Rankin en Écosse, et bien sûr, Jules Maigret. Des détectives privés comme Hercule Poirot, détective privé belge, mais qui est un ancien policier, souvent accompagné du capitaine Hastings, d'Agatha Christie, et de Sherlock Holmes, détective privé consultant, muni de son violon et de sa pipe, accompagné de son fidèle ami, le docteur Watson, inventé par Arthur Conan Doyle. Des détectives amateurs comme le père Brown, créé par l'écrivain britannique J.B.R. King, Chesterton, qui figure dans 51 nouvelles et deux textes d'encadrement qui ouvrent et clôturent le recueil Le secret du père Brown. Évoquons trois héros centraux de romans policiers et envisageons leur rapport avec la médecine. Frère Cadfael est un personnage de fiction, un moine bénédictin gallois de l'abbaye bénédictine de Shrewsbury, qui, elle existe et réellement sous le nom de l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le frère Cadfael est un ancien croisé créé par Ellis Peter, de son vrai nom Edith Pargeter, entre 1977 et 1994. Frère Cadfael est entré dans les ordres à son retour de croisade à plus de 40 ans, ce qui en fait un homme expérimenté. Il exerce la fonction d'herboriste au sein de l'abbaye et fait également office de médecin, grâce à sa longue expérience des blessures de guerre. Il conserve dans son herborium les plantes inconnues alors en Angleterre, telles que le pavot. Bien évidemment, il nous rappelle Guillaume de Baskerville, le héros du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. La structuration de ces enquêtes est basée sur des déductions scientifiques qui n'existaient absolument pas au XIIe siècle, mais qui ravissent le lecteur. On peut dire que Cadfael est un médecin moderne qui réalise des enquêtes à la manière d'un diagnostic médical au XIIe siècle. Hercule Poirot, lui, serait né le 22 janvier 1877 dans la région de Spa, en Belgique. Il grandit dans une famille pauvre avec plusieurs frères et sœurs. C'est un enfant effacé, timide. Il devient détective une fois retraité de la police belge où il a occupé la fonction de chef de la sûreté à Bruxelles. Ce personnage est créé par la romancière anglaise Agatha Christie. Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique était occupée par les Allemands. Poirot, blessé à une jambe, sera évacué avec d'autres réfugiés dans la petite ville anglaise de Steel, Saint-Marie, où il résoudra sa première énigme connue. Hercule Poirot, donc, on ne sait rien de sa famille, est un homme malheureux en amour. Il est très seul, il montre des traits de caractère orgueilleux et fier de sa personne et de ses capacités intellectuelles exceptionnelles. Vaniteux, obséquieux, il se considère infaillible. Il présente un trait psychiatrique net, il est phobo-obsessionnel, expose cette pathologie dans sa tenue, dans le fait de relever des petits détails insignifiants sur tout un chacun, qui sont parfaitement ordonnés, dans le fait qu'il ne touche pratiquement rien ni personne. Sa défense psychologique, qu'exploite à merveille Agatha Christie, est qu'il privilégie une approche psychologique du crime. Remarquons que pour lire Agatha Christie, il faut se munir d'un crayon, de papier et d'un décimètre, d'un chronomètre, ce qui laisse à penser que l'autrice s'est projetée dans la psyché de son personnage, ce que font d'ailleurs tous les auteurs. La personnalité phobo-obsessionnelle de Poirot donne une ambiance toute particulière à ses enquêtes, qui plonge le lecteur dans sa névrose, qui lui fait partager. Pour calmer ses tensions obsessionnelles, il rassemble à la fin de chacune de ses enquêtes tous les protagonistes de l'histoire à la manière d'un jeu de rôle. Il leur détaille minutieusement toutes les étapes de son enquête qu'il a par obsession méticuleusement rangée, dévoile les différentes hypothèses en désignant pour chaque cas envisagé un meurtrier possible. Puis il finit par donner la solution finale qui en fait soulage ses tensions qui ont été mises à contribution pour résoudre le mystère. C'est exactement ce que fait un médecin clinicien après l'examen clinique de son patient. Les médecins sont très souvent phobo-obsessionnels et c'est d'ailleurs pour cela qu'on les consulte pour ce que les patients appellent leur sérieux. Sherlock Holmes est un détective privé britannique, personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle dans le roman policier Une étude en rouge en 1887. Nous sommes avec Arthur Conan Doyle et ses personnages, là aussi, au cœur d'enquête à la manière d'un diagnostic médical. Conan Doyle était docteur en médecine devant des difficultés de début d'installation, il a commencé à écrire ses personnages pour des réseaux alimentaires purement. Les enquêtes de Sherlock Holmes sont narrées le plus souvent par le docteur John ou James Watson, selon les romans, qui est présenté comme le meilleur ami du détective Sherlock Holmes, dans lesquels il joue le plus souvent un rôle actif. Né en 1852, le docteur Watson obtient en 1878 le titre de docteur en médecine à l'Université de Londres. Après une spécialisation en chirurgie au Royal Victoria Military Hospital de Nestlé, il commence une carrière de médecin militaire. Il est blessé à l'épaule par une balle lors de la bataille de Maywand en juin 1880, pendant la Seconde Guerre anglo-afghane. Watson sera sauvé de la mort par son ordonnance. Par la suite, fortement malade, il est mis à la retraite et n'a une pension que de 11 sterling et 6 pence par jour. Pour, entre autres, des raisons financières, il partage avec Holmes un appartement au 221B Barker Street et devient son colocataire, appartenant qu'il faut absolument aller visiter actuellement à Londres. Leur logeuse est une certaine Madame Hudson. On en prend dans le signe des quatre que son père est décédé et que son frère est alcoolique. Conan Doyle pose dans ses écrits le couple Holmes-Watson relaté dans les quatre romans et les 5-6 nouvelles qui forment ce qu'on appelle le canon, où Holmes est fréquemment accompagné du docteur Watson. Le couple, car il s'agit véritablement d'un couple, utilise en partenariat la manière d'un diagnostic médical. Quelles sont leurs relations? C'est une relation au tout premier lieu de patient-médecin, mais en continu, où Holmes, tout en étant féru de médecine et de science, est toxicomane et ronéomane. On pourrait dire que Sherlock Holmes a le profil de ce que la psychiatrie définissait du temps où j'étais interne en psychiatrie comme maladie ou psychose maniaco-dépressive. Il s'agit d'un trouble de l'humeur caractérisé par une succession d'épisodes maniaques ou hypomaniques et dépressives. Sherlock Holmes est maniaque quand il est excité par une énigme à résoudre, puis dépressif lorsque plus rien ne le stimule. Il soigne alors sa mélancolie par son addiction à l'héroïne. Il a aussi recours à la codéine ainsi qu'occasionnellement à la morphine. Précisons que la consommation de ces produits était à l'époque parfaitement légale, même si tout aussi préjudiciable à la santé qu'aujourd'hui. Watson précise néanmoins, Holmes ne se tournait vers la drogue qu'en réaction à la monotonie de l'existence lorsque les affaires étaient rares et les journaux sans intérêt. Il semble que vers 1901, à la fin de la carrière de Holmes, suite à l'affaire de Missing String Quarter, Watson soit enfin parvenu à les dissuader de consommer de la drogue. Que sait-on de Conan Doyle? Il s'inspire des recherches de son temps. Jules Balargué, en 1854, décrit la folie à double forme qui se caractérise par deux périodes régulières, l'une de dépression et l'autre d'excitation. Simultanément, Jean-Pierre Farel publie un article consacré à la folie circulaire. En 1889, Kraepelin, dans la sixième édition de son traité de psychiatrie, forge l'expression « maladie », entre parenthèses « folie maniaco-dépressive ». Faisant la synthèse de travaux antérieurs, le 28 février 1880, alors qu'il est en troisième année de médecine, Conan Doyle s'embarque comme officier de santé à bord du navire baleinier « Hope ». Après son diplôme de bachelier en médecine et de maîtrise en chirurgie obtenu le 22 octobre 1881, l'autorisant à un exercice limité de la médecine générale, il sert 4 mois comme médecin de bord du bateau à vapeur à passagers SS Mayumba. En 1882, il s'associe avec un ancien camarade d'université, George Bould. Il crée un cabinet médical à Plymouth. Leurs relations sont difficiles, comme souvent entre les associations, et Conan Doyle la quitte. C'est à Portsmouth, en juin de cette même année, qu'après moins de 10 livres en poche, il ouvre son cabinet médical au 1 Birch Villa à Elms, George Sunsing. Il est baigné par la psychiatrie de son temps et elle lui inspire la pathologie de son héros. Avec la psychiatrie d'aujourd'hui et ses changements, nous évoquerons la pathologie de Holmes comme un syndrome d'Asperger ou une intelligence hors norme et des compétences exceptionnelles malgré un certain comportement asocial, des difficultés d'interaction sociale et de communication. Sont également présents chez Holmes des difficultés à adapter son comportement au contexte social, une diminution de la réciprocité sociale et un intérêt réduit pour les amitiés. Le terme psychiatrique précis serait aujourd'hui du DSM-5, trouble du spectre autistique, TSA. Sherlock Holmes est gravement malade et le docteur Watson l'est tout autant. Il reste en deuil de son père décédé, ainsi que très affecté par son frère alcoolique. Il retrouve chez Holmes l'addiction à l'héroïne. La relation de ces deux malades, tout en étant une relation patient-médecin, crée un maillage qui impressionne le lecteur, l'hypnotise en le faisant pénétrer au cœur de nombreuses ambiguïtés des deux protagonistes des romans de Sir Arthur Conan Doyle, qui à l'évidence s'y projette. Je vous propose une trêve musicale aujourd'hui un peu particulière, la bande-annonce de Maigret et l'affaire Saint-Fiacre avec Jean Gabin.
Maigret revient dans un nouveau film de Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de Georges Siménon, l'affaire Saint-Fiacre.
Ils sont beaux les derniers Saint-Fiacre, ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui s'envoie des gigolos.
Une affaire comme jamais Maigret n'en a connu au cours de sa carrière. Une affaire qui le bouleversera.
Votre maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert.
Pas souffert?
Un accident navrant?
Non. Pas l'accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher.
Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes fou?
Un crime extraordinaire commis par le plus étrange des assassins. Va-t-il pour la première fois mettre en échec le célèbre commissaire?
Et vous, hein? Vous deviez agiter le grelot, flétrir la débauche, monnayer les absolutions contre les mea culpa, les hosties contre les secrétaires. Eh bien répondez-moi, dites-moi que ça n'est pas vrai! Mais dites que non !
Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas ?
Dieu le connaît.
Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira. Il le découvrira parce qu'il a été enfant à Saint-Fiacre.
Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera ?
Un roudoudou et trois sous, mon tata.
Oh ! Jules !
Tu sais que moi aussi j'étais enfant de guerre. Parfaitement, et ici même, et j'ai servi l'office des cendres comme toi.
Maigret, c'est Gabin. Un Maigret Gabin, comme vous n'en avez pas encore vu.
Ben, au fait, vous qui êtes d'ici, vous le connaissez peut-être, Sabatier, Lucien Sabatier.
Oui, ça me dit quelque chose. C'est pas un petit brun?
Si.
Il travaille pas dans un château des environs?
Oui.
Paraîtrait même qu'il saute la châtelaine. Enfin, c'est peut-être des ondits.
Tantôt souriante et tendre.
Je me souviens d'un homme à moustache qui m'a souhaité la bienvenue, votre père. Et d'un petit garçon aux yeux bleus qui me regardait. Vous sentiez l'eau de Cologne il y a 10 mètres.
Oh! Je m'en étais inondé.
Vous êtes ferré sur Louis XVI?
Oui.
Oh, moi j'adore. J'en veux partout. On en mettra dans l'entrée, dans le living et plein la chambre. Un lit Louis XVI, c'est quand même autre chose qu'un cosy.
Tantôt, bouleversant de violence.
5 millions, c'est une bonne affaire, hein? Tellement bonne qu'il fallait pas que la pauvre vieille revoie son fils. Parce qu'il est peut-être pas brillant, le fils. Mais il n'aurait certainement pas laissé faire ça.
Ils étaient 7 qui avaient intérêt à commettre ce crime. Un seul l'a osé. Qui?
Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Une fausse nouvelle, c'est quand même pas la mort d'un homme.
Non, mais ça a été la mort d'une femme. Et vous avez eu l'assassin au bout du fil.
Bon, ça le gêne de le dire devant vous, mais il me croit coupable. Entendons-nous vous aussi, non? Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure.
Une interprétation unique.
Vous entendez? Elle se lève.
Je suis pauvre et je suis roturier, donc suspect. Je connais la police.
J'ai pas peur. Enfin, pas vraiment.
Non. L'état de Madame de Saint-Fiacre était grave. Je vous en prie, faites l'état.
Nous ne répondrons pas aux vagues insinuations d'un rebouteux.
L'affaire Saint-Fiacre. Un livre de Georges Siménon. Un film de Jean Delannoy. Un dialogue de Michel Audiard. Une création magistrale de Jean Gabin. Un film que vous voudrez voir et revoir.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous évoquons aujourd'hui le commissaire Jules Maigret et ses enquêtes à la matière d'un diagnostic médical. Est-ce que le personnage Jules Maigret, commissaire de police au 36 quai des Orfèvres à Paris, avec son ancienneté et son omniprésence dans le monde des enquêtes policières, qui paraît de plus en plus comme une personne ayant vraiment existé, se rapproche de son créateur et concepteur Georges Simenon. Jules Maigret naît en 1887 à Saint-Fiacre dans l'Allier. Il perd très tôt sa mère en 1895. Son père est régisseur du château de Saint-Fiacre. Il confie en 1902 l'orphelin à sa tante boulangère à Nantes, avant de mourir prématurément, lui aussi d'une pleurésie 2 ans plus tard. Jules Maigret va entreprendre des études de médecine, mais le décès de sa tante l'oblige à les interrompre. Il rejoint la capitale où il envisage de devenir vendeur, mais un voisin de palier, l'inspecteur Jacquemin, lui propose d'entrer dans la police parisienne. Maigret est tout d'abord simple agent cycliste. Il est ensuite affecté à la surveillance de la voie publique, à la brigade des mœurs, au service des garnis, une façon pour les autorités de contrôler les déplacements des populations en mouvement. Cette préoccupation, on le sait, est fort ancienne. Les dispositions sont en place pratiquement dès le début du XVIIe siècle. La police désire contrôler à la fois les logeurs et les logés. Le système repose sur 2 éléments clés, l'obligation d'une déclaration d'une part, la tenue d'un registre des clients d'autre part. Maigret devient en 1912 secrétaire du commissaire du quartier Saint-Georges dans le 9e arrondissement. Il épouse la même année Louise Léonard, une Alsacienne de Colmar élevée à Paris. Il lui donne une petite fille qui meurt, en bas âge. Dans le personnage de Maigret, tout est là. Dans la perte de sa fille. Il voulait être médecin pour soigner et sauver, mais la fatalité lui fait perdre son unique enfant, sa fille. Le génie de Simenon est ici, au cœur de l'ambivalence d'une vie à jamais déchirée par ce père qui n'a pu sauver son enfant. Nous nous rendons bien compte de ce drame dans le film Maigret, un film franco-belge réalisé par Patrice Lecomte et sorti en 2022. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman Maigret et la jeune morte de Georges Simenon, qui est publié en 1954 et mettant en scène Gérard Depardieu dans le rôle commissaire Maigret, où il est époustouflant. Le jeune couple Maigret élit domicile 21 place des Vosges dans le 4e arrondissement avant de s'installer 132 boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement de Paris. Les Maigret y reçoivent une fois par mois leurs fidèles amis, bien évidemment le docteur Pardon et sa femme. Maigret et Simenon ne peuvent pas se passer de médecin. Épouse aimante, attentionnée, admirative, Louise lui prépare son plat favori, la blaquette de veau, et l'accompagne toutes les semaines au cinéma. Maigret découvre le 36 quai des Orfèvres lors de sa première enquête en 1913. En 1917, il est nommé inspecteur à la brigade spéciale avant de poursuivre sa carrière comme commissaire, commissaire divisionnaire, chef de la brigade spéciale, entouré de l'inspecteur Janvier, Lucas, Lapointe, Lourtine, Tourance, qu'il se plaît à appeler mes enfants, et nous comprenons bien la substitution qu'opère Simenon. Il les retrouve régulièrement autour d'une bière à la brasserie Dauphine derrière le palais de justice de Paris. L'essentiel de la carrière du commissaire se déroule à Paris. À 3 ans de la retraite, il se voit proposer le poste de directeur de la PJ qu'il refuse avant de se retirer à Meurthe-sur-Loire dans le Loiret. Durant toutes ces années, le commissaire Maigret aura la même apparence avec une silhouette massive, pipe et chapeau mou et ne saura pas conduire. Sans se montrer défavorable aux méthodes de la police scientifique, il entretient par exemple d'excellents rapports avec le docteur Paul, encore un médecin légiste, et Joseph Moer, qui officie dans les laboratoires de l'identité judiciaire. Le commissaire Maigret préfère s'imbiber à la manière d'une éponge de l'ambiance des lieux où se déroulent ses enquêtes et pénétrer la personnalité profonde de leur protagoniste. Il essaie de comprendre ce qu'il interroge. L'inale doute, ressasse, attend de pouvoir saisir un bout de fil. Pratiquement toujours psychologue, jusqu'à ce que la solution s'impose à lui. Il est en fait passionné par les êtres humains et cette passion conduit parfois Maigret à se prendre d'une forme de sympathie pour certains coupables. Il se refuse à juger et intervient même dans la vie de certains personnages, devenant ainsi fidèle à sa vocation de jeunesse, un raccommodeur de destinée. Il devient en sorte leur médecin et les coupables sont très souvent des êtres très malheureux et torturés. Maigret, en les démasquant, leur permet la rédemption, une forme de thérapie. Georges Simenon s'installe en 1963 Ey Palenge, au nord de Lausanne, où il se fait construire une gigantesque maison. Sa femme Denise, qui sombre dans l'alcool et la dépression, comme pareillement d'ailleurs sa fille Marie-Jo, quitte la maison, le laissant seul avec ses enfants. À Lausanne, en novembre 1972, Georges Simenon habite au 8e étage d'un immeuble de l'avenue des Figuiers avant de se fixer dans sa petite maison rose, où il vivra jusqu'à son décès le 4 septembre 1989. En 1978, sa fille Marie-Jo se suicide d'une balle de revolver dans la poitrine à l'âge de 25 ans. C'est un drame. Son drame qu'il endeuille durant toutes ces dernières années. À l'aube du 4 septembre 1989, âgé de 86 ans, Georges Simenon s'éteint à son domicile, lausannois. Son corps est incinéré le 6 septembre. La nuit même, Teresa Sbürling, sa compagne, disperse ses cendres sur l'herbe du jardin dans l'ombre du cèdre du Liban, les mêlant à celle de sa fille. C'est à la fois la fin de Georges Simenon et de Jules Maigret, mais la tragédie de leur vie va devenir un mythe éternel. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé, aujourd'hui. L'intégrale des romans des nouvelles de Maigret, par Simenon, en 24 volumes, avec différentes dates d'édition que l'on trouve facilement en second achat. Maigret, l'intégrale, volume 1 à 7, l'intégrale de la série policière de référence sous Bruno Kremer, qui, à mon avis, l'incarnation du meilleur Maigret personnifie avec force le plus célèbre commissaire de la télévision française créé par Georges Simenon. D'une institution et d'une perspicacité à toute épreuve, le commissaire Maigret fait la lumière sur les affaires les plus énigmatiques de la France des années 50. Vous pouvez aussi lire les romans de Nathalie Rivière et moi-même que nous avons écrits pour notre héros, le docteur Philippe Langevin, L'hypnose, le meurtre de la rue Cuvier, L'étrange combustion de Tristan Thibault, Le Templier de Saint-Gilles, Le secret des Templiers, Le mystère du livre qui tue, La dame blanche du Vidourle qui vient de sortir aux éditions Hugo Stern. Je me permets de remercier Louis à la technique et Chanel au visuel et renouveler mon annonce pour l'adhésion à Radio Alliance à laquelle vous pouvez souscrire. Je vous remercie d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt.